Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par Adextra, première plateforme de l'action missionnaire en Asie. Une émission présentée par Joseph Saunier.
La voie qui mène à la perfection, c'est la voie de l'amour parfait et de la confiance au Dieu d'amour. Amis auditeurs, bonjour. La citation que vous venez d'entendre n'est pas de Sainte Thérèse de Lisieux, comme on pourrait le penser, mais de son petit frère spirituel, le serviteur de Dieu Marcel Van. Ce religieux rédemptoriste vietnamien, mort à seulement 31 ans dans un camp de travaux forcés, est aujourd'hui de plus en plus connu de par le monde. Ses différents colloques avec Sainte Thérèse de Lisieux, la Sainte Vierge ou Notre Seigneur Jésus révèlent la profondeur de l'amour et de la tendresse de Dieu pour chaque homme. Amis auditeurs, je vous propose aujourd'hui de vous perdre dans ces océans d'amour divin qui jaillissent de la figure de Marcel Van. Mes amis, vous êtes sur Orient Extrême, l'émission des missions étrangères de Paris, qui vous plonge au cœur de l'Asie, sur Radio Notre-Dame. Vous l'avez compris, amis auditeurs, Marcel Van est l'un de mes saints préférés, et pour en parler, j'ai la joie d'accueillir Dominique Vermersch. Bonjour, monsieur Vermersch.
Bonsoir.
Monsieur Vermersch, vous avez été recteur de l'Université catholique de l'Ouest à Angers et auparavant modérateur de la communauté de l'Emmanuel. Vous êtes actuellement président de l'Association des Amis de Van, qui a pour but de parrainer des séminaristes, prêtres et religieux vietnamiens et diffuser le message spirituel du serviteur de Dieu Marcel Van. Votre association est également acteur canonique de la cause de béatification de Van, petit frère de Sainte Thérèse. Alors, monsieur Vermersch, tout commence dans un petit village au nord du Vietnam, par une enfance qui n'est pas des plus heureuses. Racontez-nous les premières années du bienheureux Van.
Voilà, Marcel Van, petit garçon, est né en 1928, dans un village Nham Zao, tout près de Hanoï, en fait, aujourd'hui dans le diocèse de Bac Ninh. Et effectivement, ses premières années n'ont pas été faciles. C'était un enfant très pieux, voilà, porté par la prière de sa maman, même de ses parents. Et Van, dès 7 ans, a été emmené à la cure de Hubang. Voilà, donc c'était sa maman qui voulait le faire découvrir, la cure de Hubang, où c'était donc à l'époque, les cures étaient les endroits équivalents un peu à des petits séminaires, en fait, qui accueillaient des jeunes garçons qui se destinaient éventuellement à la vocation de sacerdotale. Et quelle ne fut la surprise de c'était simplement pour une simple visite, et petit Van, à l'époque, donc a demandé expressément à sa maman de rester dans la cure. Et donc il est resté dans cette cure quelques petites années. Mais dans cette cure, l'environnement était extrêmement difficile, donc par des catéchistes qui le raillaient, tentaient de l'abuser, qui le faisaient croire qu'il méritait l'enfer. Et petit Van était vraiment dans une grande désolation, en fait, pendant plusieurs temps, à tel point qu'il s'est enfui et il est rentré chez ses parents. Et ses parents ne voulaient pas le croire qu'il vivait ça, et donc l'ont ramené à la cure. Et voyant finalement ce qui se passait, effectivement, était vrai, en fait, finalement. Mais entre-temps, ses parents étaient rentrés dans une grande difficulté financière, une famine. Et donc, sa maman lui a quand même demandé de rester dans la cure. Voilà. Et petit Van a vécu ces années vraiment de manière très, très difficile. Et en même temps, avec une très grande capacité de résilience à travers ce qu'il a vécu. Et se confiant en tout premier lieu à la Vierge Marie. Et pourrait-on dire, pour faire bref, finalement, c'est à l'âge de 12 ans, il avait déjà quitté la cure, hein, donc nous sommes en 1940, et bien qu'il a eu, en se confiant à la Vierge Marie, qu'il a eu une grâce qu'on a appelée une grâce de Noël, et vous devinez bien, en tout semblable à celle qu'a reçue Sainte Thérèse, voilà, qu'il avait reçue à 14-15 ans, et donc Van à 12 ans. Et cette grâce de Noël, c'était il a compris finalement en un instant, hein, je pourrais te citer très rapidement, hein, « Voilà que j'étreins Jésus dans mon cœur ». Une joie immense s'est emparée de toute mon âme. En un instant, mon âme a été entièrement transformée. Je n'avais plus peur de la souffrance. Au contraire, je me réjouissais et prenais plaisir à trouver des occasions de souffrir. Dieu m'a confié une mission, celle de changer la souffrance en bonheur. Je ne supprime pas la souffrance, mais je la change en bonheur. » Vous voyez ce petit garçon de 12 ans, voilà, qui reçoit cette grâce immense, en fait, de transformer la souffrance en bonheur. Et donc, voilà, pour Van s'ouvre une deuxième étape de sa vie extraordinaire, alors qu'il n'avait pas encore fait, entre guillemets, je dirais, la rencontre avec Sainte Thérèse. C'était que, finalement, en 1942, finalement, donc, il rejoint, alors là, cette fois, un véritable petit séminaire à Quang Nguyen, qui était tenu par les, je crois, par les Dominicains. Et donc là, Van se dit, bon, et à la fois, il aspirait à la sainteté, et, mais il regardait que ces modèles, les modèles de saints qu'il trouvait, étaient quand même un peu trop sérieux, un peu trop ascétiques. Et Van, ça ne lui disait absolument rien de passer son temps à jeûner, de passer son temps à des disciplines rigoureuses. Et donc, mais cela dit, il confie à la Vierge Marie, mais écoute, Vierge Marie, je te demande quand même de m'aider et de m'aider à trouver un saint en qui je puisse me imiter, etc. Et donc, il étale un soir différents livres qu'il avait trouvés dans la bibliothèque de Quang Nguyen, et donc il les met sur la table, et puis il récite une prière, et puis il ferme les yeux, et il promet à Marie que le livre qu'il va toucher, eh bien, c'est un livre qu'il va lire, voilà. Et manque de chance, il tombe sur quoi ? Sur un bouquin sans image d'abord, bon, là. Et puis ce bouquin, c'était quoi ? C'était Histoire d'une âme.
C'est l'histoire d'une grande aventure et d'une voilà. grande relation qui va commencer. Quand est-ce que Sainte Thérèse lui apparaît pour la première fois ?
Alors, donc là, nous sommes en 1942. Donc, effectivement, il est touché, profondément touché par la lecture d'Histoire d'une âme. Ça, voilà, et il découvre que finalement, ce que vit Thérèse, hein, puisque c'est l'histoire d'une âme, c'est ce que souhaite et ce que vit déjà Marcel Van. Et peu de temps après, il s'en va dans la montagne, il s'en va prier, et il entend une voix, « Petit Van, petit Van !» Et là, il n'y a que lui qui entendait cette voix, et il dit, mais c'est ma grande sœur, mais c'est Thérèse. Oui, c'est ta grande sœur Thérèse. Et donc à partir de là, voilà, va se développer des dialogues entre Van et Sainte Thérèse. Sainte Thérèse, ça va être effectivement sa grande sœur, en fait, qui va l'éduquer, en fait, au travers de dialogues, que, non seulement avec Sainte Thérèse, mais aussi avec Jésus, avec Marie, que Van, petit secrétaire, eh bien, sera invité à écrire. Et donc, nous avons aujourd'hui des milliers de pages, en fait, issues de ces dialogues entre Van, Thérèse, Marie et Jésus. Des dialogues que son père spirituel, donc le père Boucher, rédemptoriste canadien, va inviter Van à mettre par écrit, en fait, ainsi que son autobiographie, ainsi que sa propre histoire d'une âme.
Alors, de quoi lui parle la Vierge Marie, Notre Seigneur et Sainte Thérèse ? Que lui disent-ils ?
Alors, c'est un univers théologique extraordinaire. C'est un univers aussi, pourrait-on dire, littéraire, extraordinaire, qu'on commence à découvrir, qu'on approfondit. Alors, peut-on donner peut-être un exemple de ce qui est raconté ? Nous sommes en 44, 45, 46, en fait, voilà. Et donc, c'est quoi ? C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est, la reprise par les Français de leur empire colonial, hein, puisque donc les Japonais avaient été chassés du Vietnam. Et donc, une reprise de l'empire colonial, proclamation de l'autonomie du Vietnam Nord par Ho Chi Minh, vous voyez ? Et donc, c'est dans ce contexte que vit Van. Et donc Van, voilà, je vous donne un exemple. Hein, Van, un jour, Sainte Thérèse lui dit, je te demande de prier pour les Français. Et Van, petit garçon, enfin, cet ado, un jeune, espiègle, un peu insolent même. Oui, Sainte Thérèse, je vais prier pour les Français, je vais prier pour qu'ils meurent tous. Ah ! Alors Sainte Thérèse lui dit, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut peut-être prier pour les Français. Je vais t'apprendre à prier pour les Français. Effectivement, certains Français ont fait quelque chose de mal, ils méritent même parfois la mort. Mais je t'invite d'abord à extirper du cœur des Français l'homme pécheur, et t'invite de prier pour eux. Et tout, à travers tout un dialogue, en fait, eh bien, c'est cette révélation extraordinaire que Van a de que le fait que la France et le Vietnam sont appelés à être des nations en communion, à l'image de la communion fraternelle et missionnaire qui existe, que vit Sainte Thérèse et que vit Van, petit frère de Thérèse. Et c'est à ce moment-là, finalement, en 45, 14 novembre 45, vous voyez, hein, que Van reçoit par Jésus, cette prière pour la France. Une prière pour la France que vous connaissez, que nous connaissons pour la plupart, en fait, hein, que chaque Français est invité à réciter chaque jour, ainsi que Van, et qui rappelle quoi ? Qui rappelle la France à sa vocation. Vocation de fille aînée de l'Église, vocation d'éducatrice des peuples, voilà, c'est pas rien, et qui est, la France est rappelée à sa vocation par un petit Vietnamien de rien du tout, là, qui s'appelle Marcel Van.
On a également une vision de la souffrance qui est développée dans cette autobiographie et tous ces échanges. Quelle est cette vision de la souffrance ?
Alors, ça peut faire parfois un peu peur, en fait, cette vision de la souffrance. Bah, tout d'abord, Nous sommes tous voilà, des hommes et des femmes qui portons des souffrances plus ou moins fortes, plus ou moins intimes, etc. Et donc, cette vision, qui est une vision qui rejoint, je dirais, pourrait-on dire aussi l'enseignement de l'Église, hein, en fait, voilà, sur la question de la souffrance. Hein, la souffrance, souvent, et hein, je pense que c'est ce que rappelait Saint Jean-Paul II, elle est comme aussi permise, en fait, hein, pour que se libère l'amour, d'une certaine manière. Et c'est ce que Van va vivre. Van comprend finalement que les souffrances, et Dieu sait qu'il en a vécu hein, fortement, d'être très intime tout au long de sa vie, hein, et puis il a donné sa vie, et bien quelque part, dès lors qu'elles sont, offertes, Van comprend que ces souffrances offertes, eh bien, elles contribuent à la sanctification des âmes. Hein, raison pour laquelle on a appelé le Van hein, comme la mère des âmes, en fait, une épouse de Jésus et mère des âmes, en fait. Voilà. Et cette souffrance, eh bien, c'est en ce sens-là que cette souffrance, elle n'est pas supprimée, mais elle se transforme, elle est associée en tout cas à la joie du salut des âmes, de participer au salut des âmes. Et Van comprend ça en un instant, et ça rejoint évidemment le message, d'une certaine manière, le message de Sainte Thérèse.
Amis auditeurs, c'est déjà l'heure de notre pause musicale, restez bien avec nous. On continue de parler de cette figure du serviteur de Dieu, Marcel Van. Tout de suite, l'heure de la pause musicale.
Il y a des âmes sur la terre qui cherchent en vain le bonheur. Mais pour moi, c'est tout le contraire. La joie se trouve dans mon cœur.
Cette fleur n'est pas éphémère. Je la possède sans retour.
Comme une rose printanière, elle me sourit chaque jour.
Vraiment, je suis pas trop heureuse. Je fais toujours ma volonté. Pourrais-je n'être pas joyeuse et ne pas montrer ma gaieté? Ma joie, c'est d'aimer la souffrance. Je souris en versant des pleurs. J'accepte avec reconnaissance les épines mêlées aux fleurs.
Lorsque le ciel bleu devient sombre et qu'il semble me délaisser, ma joie c'est de rester dans l'ombre, de me cacher, de m'abaisser. Ma joie c'est la volonté sainte de Jésus, mon unique amour. Ainsi je vis sans nulle crainte, j'aime autant la nuit que le jour.
Ma joie c'est de rester petite, aussi quand je tombe en chemin, je puis me relever bien vite. Et Jésus me prend par la main, alors le comblant de caresses, je lui dis qu'il est tout pour moi. Et je redouble de tendresse lorsqu'il se dérobe à ma foi. Si parfois je verse des larmes, ma joie c'est de les bien cacher.
Oh que la souffrance a de charme, quand de fleurs on sait la voiler.
Je veux bien souffrir sans le dire, pour que Jésus soit consolé.
Ma joie c'est de le voir sourire, lorsque mon cœur
est exilé.
Longtemps encore je veux bien vivre, Seigneur si c'est là ton désir. Dans le ciel je voudrais te suivre, cela te faisait plaisir. L'amour, ce feu de la patrie, ne cesse de me consumer.
Que me font la mort ou la vie?
Amis auditeurs, vous venez d'entendre « Ma joie », une chanson de Natacha Saint-Pierre qui reprend les paroles de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous étions en train de parler avec Dominique Vermersch, président de l'association des Amis de Van, de cette figure du serviteur de Dieu, Marcel Van. Dominique Vermersch, j'aimerais revenir avec vous sur cette question de la nation, de la patrie et de cette relation spécifique entre le Vietnam et la France.
Oui, tout à fait. On rentre très rapidement, en fait. Hein, donc le message de Van, effectivement, contient... On pourrait dire véritablement une théologie des nations, une théologie de l'histoire des nations, qui s'inscrit dans l'économie, j'aurais dans l'économie du salut. Et donc, de ce fait-là, en fait, donc la France, fille aînée de l'Église, en fait, toute nation a une vocation, en fait, hein, et qui est finalement est comme portée dans sa vocation par une autre nation, qui est le Vietnam. Et un tout petit fioriti, hein, le premier évêque vietnamien qui a été consacré évêque, notamment par Pion, c'est en tout début des années 30. Hein, voilà, Pion, ce qui lui dit au moment, ben, voilà, cet évêque, vous allez repartir dans votre patrie, votre nation, cette nation qui est fils aîné de l'Église d'Extrême-Orient. Et donc va s'instaurer une communion et une réciprocité des dons entre l'Église de France et l'Église de Vietnam, que nous vivons encore fortement aujourd'hui. L'Église du Vietnam, très redevable, très dans la gratitude de tout ce que la France a apporté, hein, notamment les missionnaires, ceux qui ont donné leur vie, hein, et parmi les missions étrangères de Paris, il y en a un très très grand nombre. Et aujourd'hui, c'est le Vietnam, en fait, qui a souci eh bien, d'envoyer des séminaristes, des prêtres, voilà, en mission véritablement au sein de notre Église de France. Donc une réciprocité des dons qui est extraordinaire et qui se vit à travers des personnalités. On a Marcel Van, mais on en a bien d'autres, évidemment, les saints martyrs vietnam et d'autres personnalités vietnamiennes, voilà, qui contribuent, qui témoignent de cette réciprocité des dons entre la France, l'Église de France et l'Église du Vietnam, le peuple français et le peuple vietnamien.
À travers tous ces échanges entre le ciel et le petit Van, on a véritablement une relation qui se crée. Le petit Van avait la chance d'avoir des visions de la Très Sainte Vierge, de Notre Seigneur et de Sainte Thérèse. Nous, on n'a pas cette chance, mais qu'est-ce que tous ces échanges ont à nous enseigner dans notre relation personnelle avec le Christ ?
Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont ? Plein de choses. Hein. Bon, tout d'abord, vous l'avez rappelé, hein, c'est le mot confiance. Hein, voilà. Van est l'apôtre, comme Sainte Thérèse, l'apôtre de la confiance, une confiance dans l'amour miséricordieux du Seigneur. Hein, et c'est dans cette confiance, finalement, que peut se déployer hein, le règne d'amour du Seigneur dans le monde, en fait. Voilà, hein, et c'est la conclusion de la prière pour la France. Mais plus précisément, je dirais qu'aussi que Van nous introduit, nous fait découvrir, redécouvrir plutôt, ce à quoi nous sommes invités. Nous sommes invités à une relation vraiment toute simple, familière, de proximité avec les personnes divines, hein, avec Marie, avec le Seigneur, avec Jésus, voilà, avec son Père, avec puis aussi dans une relation avec les saints. Et là, c'est quand même quelque chose de très étonnant. Je vous invite évidemment à lire l'autobiographie de Van et à lire ces colloques hein, qui ont été publiés. Et là, vous allez découvrir des choses très étonnantes. Hein. Vous voyez, un petit exemple, par exemple, voilà, donc Van, qui, bah, évidemment, tous les jours, il reçoit ses colloques, ses dialogues, donc il les met par écrit. Et puis, à un moment, il dit à Jésus, mais il dit, écoute, Jésus, t'es quand même bien sympa, mais quand même, à chaque fois, tu fais louper mon goûter. Hein. Voilà, j'écris. Une fois, deux fois, trois fois, tu me fais louper mon goûter. Et on voit Jésus qui lui répond. Il dit, bah, écoute, je te demande pardon, vraiment, je suis vraiment désolé. Cette familiarité de Jésus. Ou pendant le carême, Van qui reçoit des consolations pendant le carême. Et Van de lui dire, mais Jésus, je suis un peu étonné, voire même un peu surpris, est-ce que tu connais la doctrine ecclésiale, la doctrine de l'Église, qui pendant le carême, ben, on ne reçoit pas des consolations, mais plutôt des désolations. Enfin, voilà, l'échange de simplicité, de proximité, auquel en fait nous sommes invités. Et Jésus lui dit, mais moi, ce qui me désole, ce qui me fait souffrir, c'est finalement quand les âmes... Ne me parle pas tout simplement, ne me dise pas tout simplement ce qui fait leur vie. Voilà, tout ce qui fait leur vie. Donc c'est vraiment cette invitation voilà, à une relation familiale, en fait, voyez. Voilà. Et tout en étant dans un profond respect, bah, que Dieu est Dieu, que Jésus est le Seigneur, voyez, mais avec une familiarité, une proximité vraiment très étonnante.
Monsieur Vermersch, est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote, un épisode de la vie du serviteur de Dieu Marcel Van, qui nous montre la profondeur de sa vie spirituelle et pourquoi surtout il est surnommé l'apôtre caché de l'amour ?
Voilà, effectivement, tout au long des colloques, et Van le rappelle dans son autobiographie, hein, il est invité à être... voilà, il est appelé petit apôtre. Un petit apôtre de l'amour, et on a rajouté parfois, petit apôtre caché de l'amour. Alors, quand est-ce que Van reçoit cette invitation, cette élection, un petit apôtre caché de l'amour ? Eh bien, il le reçoit précisément, je reprends je crois que c'est de passage de Sainte Thérèse à Van, quand il est dit ceci, « Quand les deux pays, la France et le Vietnam, jouiront de la paix, portant ensemble dans la joie le joug de l'amour, alors le règne de Jésus, roi d'amour, se propagera rapidement. Et toi, petit frère, tu porteras le nom d'apôtre de l'amour. D'apôtre caché de l'amour. Pourquoi ? Parce que finalement, ça renvoie à cet épisode de dans Saint Jean. Hein, voilà, que devons-nous faire pour travailler ? Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et ne cherchez pas la gloire hein, qui vient du Dieu unique ? Nous sommes invités à la suite de Van et de Sainte Thérèse à être ces petits apôtres cachés de l'amour. et par la prière, hein, par la prière. Voilà, et donc cette prière toute confiante, voilà, toute simple, qui nous fait déjà apôtre caché de l'amour, et puis aussi, tout simplement, aussi par cette offrande, pas à pas, voilà, avec une pédagogie, thérésienne et une pédagogie qui va être aussi dictée par Vannes, cette offrande de nos souffrances, qui va nous faire comprendre que ce faisant, eh bien, nous contribuons au salut des âmes, à la sanctification des âmes. Et ça, Vannes a compris ça d'une manière extraordinaire, en fait, très très forte. Et pour témoigner de cette profondeur spirituelle avec laquelle il l'a vécu, il faut savoir aujourd'hui que, ben aujourd'hui, à travers ces dialogues, eh bien, on prépare des licences de théologie, on prépare des thèses, hein, par exemple, tout un passage qui serait aujourd'hui trop long de développer sur la question du salut des enfants morts sans baptême, par exemple. Il y a tout un passage. J'ai évoqué la théologie des nations, notamment, enfin, tout ça. Vraiment, voilà, les dialogues est un univers. Et ça renvoie à un passage, un témoignage de donc d'un évêque vietnamien, en fait, qui a été le secrétaire particulier de Jean-Paul II, en fait, pendant quelques années, hein, qui témoignait ceci, qui disait, mais quand finalement on découvrira la profondeur des dialogues, de ce qu'a reçu Vannes, et souvent Vannes le dit lui-même, il dit, Jésus, ce que tu me demandes, moi je ne comprends rien, et Jésus lui dit, mais t'inquiète, on comprendra, enfin, je te sers d'être mon petit secrétaire, tout simplement, voyez. Et ce secrétaire particulier de Jean-Paul II qui disait, bah, quand on comprendra la profondeur théologique de ces dialogues, eh bien, Vannes sera et une bombe à retardement. Une bombe à retardement, voilà, pour déployer la miséricorde du Seigneur, en fait, dans le monde, en fait. Et porté par cette miséricorde, ce règne de la miséricorde, porté, c'est quand même très, très étonnant, par cette communion missionnaire et fraternelle entre deux peuples, entre deux églises, entre la France et le Vietnam. La France, là, qui aussi a ce rôle aujourd'hui, hein, petitement, eh bien, voilà, Vannes est très connu en France, dans les pays francophones, de plus en plus au Vietnam, hein, j'étais encore récemment, et donc progressivement, Vannes est de plus en plus connu. Et cette France qui a aussi cette vocation de protéger l'amour du Seigneur au Vietnam.
La vie de Marcel Vannes, elle s'inscrit aussi dans un contexte historique. En juillet 1954, après les accords de Genève, le Vietnam est coupé en deux, alors que de nombreux chrétiens fuient le nord pour se réfugier au Vietnam du Sud. Marcel Vannes, qui est au sud, demande à retourner au nord, devenu communiste. C'est un choix drastique.
Voilà, c'est un choix drastique. Hein. Vous connaissez peut-être l'histoire. Hein. Donc, Vannes a pris le... Donc, il était dans le... à Dalat, et puis après à Saigon, donc il était au sud. Et donc, en 54, donc la fin de la guerre d'Indochine, en fait, donc la scission du Vietnam, donc Vannes demande à repartir au nord. Donc, il prend le dernier avion pour Hanoï et il rejoint donc encore quelques frères qui étaient restés au couvent de Hanoï. Peu de temps après, il est arrêté pour une bêtise, mais bon, il avait critiqué tout simplement le. Enfin, il avait dit, mais voilà, j'entends qu'au sud, ça se passe très mal, la famille, etc. Mais non, Vannes, ça se passe plutôt bien dans le sud, il n'y a pas, voilà, enfin bref. Et donc Vannes est arrêté, et donc il est condamné, en fait, mais au moment du procès, on lui fait comprendre qu'on dit, écoute, parce que c'était pas très grave ce qu'il avait fait, on lui dit, mais écoute, si tu avoues telle ou telle chose, ben voilà, t'auras pas. Et Vannes de dire, mais je vais pas avouer quelque chose que je n'ai pas fait. Donc, boum. Donc là, Vannes, ben voilà, il a pris 15 ans. Voilà, et il est mort d'épuisement, donc le 10 juillet 59. Témoignage par rapport à ce que nous vivons, Vannes est un modèle, je dirais, de persévérance et puis aussi de résilience, hein, à travers tout ce qu'il a vécu, petit enfant, en fait. Hein, voyez, Vannes a failli être abusé. Hein, voilà. Mais il a une capacité de rebond extraordinaire. Vannes était très intelligent, il n'avait pas fait d'études, etc. Et donc, aujourd'hui, en fait, Vannes est un modèle d'espérance. Et peut-être aussi, pour conclure, il faut savoir que le premier postulateur de Vannes a été le cardinal Van Thuan, né la même année, voilà, issu de milieux extrêmement différents. Et le cardinal Van Thuan est aussi un modèle, en fait, aussi de témoin de l'espérance. Non seulement pour son pays, mais aussi plus largement pour notre monde, pour les différents pays, pour l'Église, aussi de manière extraordinaire, en fait. Et je crois que Vannes, aujourd'hui, est donné, hein, voilà, est un modèle de sainteté, hein, à proposer. Et c'était en ce sens-là que les évêques vietnamiens nous avaient proposé de dire en quoi Van est un modèle de sainteté contemporaine et universelle. Et je crois que c'est vraiment le cas aujourd'hui. C'est une invitation à découvrir plus profondément Marcel Van et à le prier.
Et la vie de Marcel Van s'est éteinte avec ces mots. Qui peut connaître la force de l'amour? Qui peut en connaître la douceur? Viendra un jour où je mourrai, mais je mourrai consumé par l'amour. Merci beaucoup, Monsieur Vermersch, d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Je vous invite, moi aussi, amis auditeurs, à découvrir son autobiographie, notamment dans la librairie de l'association des Amis de Van, pour approfondir cette figure incroyable de Marcel Van. Je vous invite également à partager largement ce podcast. Vous pouvez le retrouver très facilement. Vous tapez Orient Extrême sur votre barre de recherche. Vous tombez sur tous les podcasts et vous pouvez les partager. Merci à vous, amis auditeurs, de répondre toujours aussi fidèlement à mes invitations à écouter Orient Extrême. Bon courage pour la semaine qui s'annonce. Que la paix soit avec vous.